Joseph Kabila affirme qu'il n'a jamais demandé à sa famille politique de réviser la constitution de la RDC. Il l'a dit dimanche dernier au cours d'une rencontre à sa ferme de Kingakati devant les parlementaires de la majorité présidentielle. Clôture la semaine dernière à Genève de la réunion ministérielle sur la stratégie des solutions globales pour les réfugiés rwandais. Parmi les recommandations, les pays participants, dont la RDC, ont annoncé que les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. Tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Joachim Diana, il est éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana Gikoupa.
Bonsoir Guimaté.
Innocent Kaboukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Bonsoir Innocent Kaboukala.
Bonsoir.
Et Georges Kasongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu Maniema, émettant de Kindu. Bonsoir Georges Kasongo.
Bonsoir Guimaté, bonsoir à tous les confrères et les auditeurs de la radio Okapi.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le président Kabila dit n'avoir jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution. Les opérations de rapatriement des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. Et comment la presse a analysé cette actualité? Suivons cette revue de presse que nous propose Alain Hirung.
Bonsoir. Cette revue de presse commence par la rencontre de Kingakati. RDC, le président Joseph Kabila exhorte les députés et les sénateurs de la majorité à la loyauté, la discipline et la vérité, titre l'agence congolaise de presse. Kingakati face au G7, Kabila mobilise ses troupes, écrit de son côté Forum des As. Kingakati, Kabila contre le suicide collectif, titre Le Phare. Tandis que la prospérité écrit Kingakati, Kabila joue à l'apaisement. Tout cela pour évoquer ce qui est présenté comme le propos du président Kabila le week-end dernier devant les députés et sénateurs de sa famille politique. Forum des As et Le Phare parle d'un Kabila mobilisateur des troupes et presque triomphaliste qui invite ses lieutenants à la vérité, loyauté et discipline, mais aussi au dialogue et à se préparer à gagner les élections. Fin de citation. Parlons à présent de la clôture la semaine dernière à Genève de la réunion ministérielle sur la stratégie des solutions globales pour les réfugiés rwandais. Radio-Capi.net rapporte que parmi les recommandations, les pays participants, dont la RDC, ont notamment annoncé que les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. En cas de refus des réfugiés d'être rapatriés, il a été recommandé aux États concernés de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'exploration de l'acquisition de la citoyenneté. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, on peut citer notamment le lancement officiel du rapport bilan des progrès accomplis vers l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD 2000-2015 en RDC par le Premier ministre Matata Ponyo. Le palmarès informe qu'il y a 15 ans, les chefs d'État et de gouvernement de 189 pays se rencontraient pour définir et arrêter les objectifs du millénaire pour le développement OMD. Le point essentiel de cette rencontre relevait alors d'un défi. Réduire de moitié la pauvreté des populations de la planète, souligne le journal qui rappelle que le délai butoir pour atteindre ces objectifs avait été fixé à l'année 2015. Forum des As titre ainsi à sa une du jour, Matata Ponyo salue le bond réalisé par la RDC en 15 ans et met en avant le mot progrès. Terminons par les nouvelles de la MONUSCO où le Nigérien Maman Sambo Sidiku remplace l'Allemand Martin Kobler à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. La tempête des tropiques titre des nationalités nigériennes, Maman Sambo Sidiku dirige la MISOM depuis 2014 alors que la Somalie est sous une menace terroriste persistante dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Le journal précise également que, selon une source diplomatique basée à Kinshasa, Martin Kobler devrait être nommé dans les prochains jours par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, comme représentant spécial en Libye, succédant ainsi à Bernardino Léon.
Merci Alain Hirung. Joachim Diana, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la suspension des sessions ordinaires des assemblées provinciales des nouvelles provinces par les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur. Votre réaction?
Oui, tout à fait. Il se pose un vrai problème pour le fonctionnement des assemblées provinciales qui doivent d'abord comprendre qu'elles sont hors mandat. Et le glissement a tellement pris que bientôt ils vont avoir un deuxième mandat induit. Alors, que maintenant, il faut résoudre le problème. On ne voit pas comment ces assemblées qui ont été élues vont fonctionner avec des commissaires spéciaux qui seront nommés, à moins qu'on fasse une loi express pour permettre leur fonctionnement et tout ça. Mais puisque ce sont des mesures exceptionnelles, dans ces mesures exceptionnelles, il y a lieu de suspendre les assemblées provinciales. Et c'est là, conformément à la loi de 2008, qui disait en cas de difficultés de représentation dans les provinces, le gouvernement central peut prendre de mesures et peut se substituer pour assurer l'ordre. Et ça ne sera que pour quelque temps, le temps de mettre en place le gouverneur élu.
Innocent Kabukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa, vous venez de suivre Diana Dikoupa qui estime que parce qu'il y a des difficultés, il y a lieu de suspendre, n'est-ce pas, les sessions ordinaires des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Mais suite à cette décision, des personnalités politiques dénoncent la mainmise du pouvoir central sur les assemblées provinciales.
Bon, pour les politiques, c'est clair qu'ils ne peuvent agir que de cette manière-là. Mais le plus important, s'il faut faire l'analyse dans le fond de la question, c'est qu'au départ, on avait décrié cette loi de programmation en ce qui concerne les nouvelles provinces. Parce que la difficulté, c'est cette mise en œuvre. C'est ce qu'on craignait depuis très longtemps. Et voilà que la situation arrive et on est bloqué. Donc au départ, on aurait pu éviter tout cela. Parce qu'il y a une difficulté. Les commissaires spéciaux, comme dit le confrère, mais comment les commissaires spéciaux viennent à la suite des mesures exceptionnelles qui sont prises pour pouvoir permettre la gouvernabilité au niveau des provinces, mais avec des gens qui, tantôt élus, mais dont le mandat est déjà à terme depuis très longtemps. Alors il y a quand même une espèce de dichotomie du point de vue du fonctionnement. C'est pour cela que au départ, le conseil qui était donné était qu'il ne fallait pas y aller tout de suite avec les nouvelles provinces et qu'il fallait peut-être garder les choses à ce niveau-là. Et avant d'arriver, bien entendu, les calculs de politique, c'était tout autre, notamment le gouvernement qui avait aussi ses idées ailleurs. Donc on comprend que là, on est bloqué, on revient à la case de départ, donc c'est du temps perdu.
Geoffrey Kasongo, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Akiza Binadamu Maniema émettant de Kindu. Il y a des experts qui estiment que la décision du vice-premier ministre en charge de l'intérieur est l'une des conséquences des lacunes contenues dans la loi de programmation par rapport aux nouvelles provinces.
Voilà. Dans une autre émission, sur les ondes de la radio Okapi, j'avais dit que l'arrivée massive des chefs de parti au gouvernement présageait quelque chose qu'on n'avait pas cru. Donc, le fait de suspendre les assemblées, disons, les plénières des assemblées provinciales de ces 21 nouvelles provinces, ce n'est pas une conséquence directe, mais c'est juste une suite logique d'un stratagème bien planifié. Imaginez-vous que les assemblées ont existé depuis là, c'est tous les règlements de l'ordre intérieur qui ne sont pas conformes à la Constitution. Alors qu'on n'en a pas inventé, on a juste adapté quelques noms. Les présidents provisoires de ces assemblées sont maintenus à Kinshasa. Donc il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se prépare, notamment autour du trio gouvernement CENI Cour constitutionnelle. Vous voyez, imaginez-vous que pour organiser les élections d'un gouverneur, mais on a été tous à l'école, on était parfois 50 dans une salle de classe. L'Assemblée provinciale, par exemple, de Bazouélé, il n'a que 17 à 18 députés provinciaux. Celle de Litouri, 29. Pour voter un gouverneur, il faut 2 millions de dollars, imaginez-vous.
Joachim Diana Gikoupa, l'autre actualité, c'est les vols inaugurales de Congo Airways ce matin, ce vendredi matin.
Oui, tout à fait. C'était le temps a été très long. Un grand et vaste pays comme la République démocratique du Congo, sans un seul avion, sans compagnie d'aviation, et alors que de petits pays autour de nous qui n'avaient même pas besoin d'avion parce que on peut sauter, si on fait le saut en longueur, on saute, on va d'une frontière à l'autre, mais ont des avions. Nous qui avons une si vaste pays sans une compagnie d'aviation, il fallait y penser. Heureusement que ça arrive. Deux avions, je crois que c'est peu pour la République démocratique du Congo, mais pour faire 1000 kilomètres, on commence par un petit pas avant de faire les autres kilomètres qui restent.
Innocent Kabukala, quelles sont les propositions que vous faites pour que cette nouvelle compagnie puisse répondre aux attentes des Congolais en matière de trafic aérien?
Déjà, le fait qu'on ait créé une nouvelle compagnie alors qu'il existait une autre, bien avant, c'est un problème. Parce que, dans notre temps, quel sera le sort des agents de l'AC? Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'on a commencé avec cette compagnie, puisqu'on a dit aussi qu'il était temps que cela arrive pour un pays continent comme le nôtre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est éviter de tomber dans les mêmes erreurs qu'on a connues avec les autres compagnies. C'est quoi? C'est que si il est... Déjà, on redéquille cet avion, on dit que ce sont des avions d'occasion. Bon, puisque ce sont des avions d'occasion, mais alors, avec les recettes qu'on va faire, il faut toujours considérer que la maintenance est une très bonne chose. Il faut toujours considérer que la bonne gestion permettra de pouvoir développer cette entreprise. Donc, on peut passer de 2 avions aujourd'hui à 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, il faut considérer, il faut que cet esprit-là anime les animateurs qui sont à la tête de cette compagnie. Donc, c'est très important. Mais sinon, on va quand même dire bravo, puisqu'il faut commencer quelque part.
Georges Katongo, un mot par rapport au vol inaugural de Congo Airways.
Congo Airways, nous disons bienvenue, longue vie et prospérité, mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous craignons que la gestion pose problème, parce que déjà ce matin, nous avons appris qu'il y a un avion qui va survoler tout Kinshasa, ceci, cela. Et imaginez-vous l'écoute de tout cela. Et demain, ça sera le gouvernement qui sera là pour affréter les avions, réquisitionner les avions sans payer. Des entreprises comme SNED, Régie des Eaux sont là. Des canards boisés parce que l'État doit beaucoup d'argent et demain ce sera des ministres qui auront des charters, des histoires et cela, mais sans payer et ça sera un coup d'ire dans les corps des Congo Airways, mais également penser aux petits et moyens porteurs pour par exemple relier, nous pouvons dire ici, Kananga, Chikapa, Bukavu, Bikenge-Kama par exemple, et Mbandaka, des petits avions, les deux ne suffisent pas, mais au moins c'est un bon départ, on peut partir de ça, mais nous exhortons les dirigeants à gérer cette entreprise avec beaucoup de dextérité. Il faut gérer comme des technocrates et non comme des politiques qui vont sombrer dans le clientélisme. Il faut appliquer les normes de gestion, les outils de mesure pour que cette entreprise ait une longue vie. Voilà au moins ce que nous pouvons dire à ce sujet.
Joaquin Diana, l'autre actualité, c'est la nomination du nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, en la personne de Maman Sambo Sidikou.
Ah ben, qu'il soit le bienvenu. Je suis heureux que ce soit un francophone. Et en plus du fait que c'est un Africain, peut-être qu'il pourra mieux comprendre certaines sensibilités, parce que moi, je me suis toujours rendu compte que les gens comme Kobler, comme l'autre là qui est parti avant, le Britannique, bon, ils sont peut-être animés de bonne volonté, de bonne foi, mais ils ne connaissent pas la classe politique, ils ne connaissent pas l'Afrique, et surtout ils ne connaissent pas les opposants africains. Alors, ils croient que ce sont des opposants de bonne foi, et leurs paroles, on en fait de paroles d'évangile, et puis on crée des situations qu'on veut résoudre.
Inosa Kabukala, un mot par rapport au nouveau, patron de la MONUSCO.
Ça, c'est purement du sentiment. Comment on peut dire que, parce qu'il est africain, donc il pourra comprendre mieux le problème?
Je pensais, surtout, j'espère.
Non, mais ça n'a rien à voir. Je ne pense pas. Le plus important ici, c'est que on est dans la suite de logique. Donc, quand un représentant arrive à la fin de son mandat, il y a un autre qui arrive. Mais le problème, lui, du Congo, il reste, c'est que il y a des besoins pour ce pays. Le besoin, c'est quoi? C'est que nous avons besoin d'une MONUSCO qui sécurise réellement la population et qui fait son travail. Mais à partir du moment que certaines personnes voient de mauvais œil l'appréciation d'un représentant par rapport à sa mission et considérer que c'est parce qu'il ne connaît pas, mais moi je ne pense pas. Donc là, c'est versé dans le sentiment. Le plus important, c'est que nous souhaitons que c'est lui qui arrive, continue dans la même lancée que Martin Kobler, parce que la population a besoin de sa sécurité, d'autant plus que notre pays, jusque-là, n'offre pas de garantie en termes de sécurité pour ses populations.
Georges Katongo, un mot par rapport au nouveau patron de la MONUSCO.
Nous disons bienvenue à M. Maman Sambo Sidikou, qui vient hériter d'un bilan élogé laissé par Martin Kobler, qui, à mon avis, c'est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui a le plus travaillé pour la stabilité au Congo. Il s'en va à tête haute. Mais ma seule crainte, c'est que les diplomates africains n'arrivent pas à s'exprimer bien. Ils n'ont pas un poids diplomatique et dévolu aux autres. Ils sont toujours beaucoup plus protocolaires. Ils ne sont pas très efficaces, je me permets de dire cela, mais au moins, sans lui fausser d'intention, nous lui souhaitons la bienvenue.
Merci.
Mais au moins, il a un exemple à suivre, c'est son prédécesseur, celui qu'on appelait affectueusement à Kinshasa, le vieux Goldberg.
Merci. Notre premier thème de ce soir, Joseph Kabila affirme qu'il n'a jamais demandé à sa famille politique de réviser la constitution de la RDC. Il l'a dit dimanche dernier au cours d'une rencontre à sa ferme de Kingakati devant les parlementaires de la majorité présidentielle. C'est ce qui ressort de sa rencontre dimanche dernier avec 315 députés nationaux et 47 sénateurs de sa famille politique dans sa ferme privée de Kingakati. Joseph Kabila a invité la majorité à préparer les dialogues et à se préparer aussi à affronter les prochaines élections. Que les élections soient organisées maintenant ou demain, aucune force politique n'est capable de les gagner, à part la majorité, a-t-il soutenu. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Alain Irunga.
À la base de la situation ou de l'actualité politique, et ça l'argument principal qu'on utilise aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Oui, c'est parce que M. Kabila il va changer la Constitution, je ne me souviens pas. On va organiser une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. Et j'avais évoqué ici, il y a 2 ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Ils vont changer la Constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question. Même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir, le droit de chaque député et sénateur de réfléchir et de faire des propositions. Pourquoi pas? Mais je pense que la vraie raison, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur, le président de ce pays, la République démocratique du Congo? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout, pour les dialogues, les élections, la paix.
Joachim Diana, Guy Koupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa, le chef de l'État dit n'avoir jamais demandé à sa majorité de réviser la constitution de la RDC. Et comment vous avez analysé cette déclaration à la rédaction de La Colombe?
Le chef de l'État n'a fait que redire ce qu'il a toujours dit. Et je me souviens que la dernière fois, la toute première fois, où il avait parlé de cette histoire de réviser la constitution pour éventuellement s'ajouter un troisième mandat, c'était lorsque on avait révisé la constitution pour passer de 2 tours à 1 tour. Et curieusement, lorsqu'on fait le palmarès des présidents qui veulent modifier la constitution pour se maintenir, on y met le chef de l'État, et le chef de l'État du Congo. Et lorsqu'on pose la question, même dans les médias, dans la presse où les faits sont sacrés, le commentaire est libre, les gens se sont basés sur des commentaires. Les faits, ça n'existe pas.
Mais les faits qui ont été relevés, c'est notamment l'ouvrage du professeur Sofiab, la déclaration du PPRD, la proposition de Machala qui est cadre du PPRD. Il y a des faits sur lesquels les gens sont basés pour c'est le chef de l'État qui est derrière tout ça parce qu'il avait gardé le mythisme.
Bon, mais écoutez, lorsque Evariste Boshab utilise sa liberté d'écrire un livre, on aurait voulu qu'on les mette en prison. Ça serait avec le bureau de droits de l'homme de la MONUSCO, et si on dirait quoi, liberté d'expression, on a empêché. Si c'est, supposons que ce soit un opposant qui écrive un livre, et qu'on estime que ce livre n'est pas bon pour la majorité, qu'on l'arrête, ou bien on l'empêche, qu'est-ce qu'on allait dire? Mais puisque c'est Boshab, il est de la majorité, son livre est un livre. Je n'ai jamais vu dans un pays où un livre peut amener à changer la constitution. Et livre, c'est la liberté d'expression. Et si on veut lui répliquer, on lui réplique. On a dit de Machal, mais nulle part où, parce que on dit aussi dans la presse que la notoriété de la source, Boshab en tant qu'individu n'est ni MP ni président de la République. Il peut écrire son livre, la preuve c'est que le livre est là, le livre n'est jamais allé. On va prendre le livre, on présente à l'Assemblée nationale pour dire que l'Assemblée nationale, voici le livre, changer la constitution. Non. Les gens ont le droit de réfléchir et c'est leur liberté, mais on doit être honnête pour dire que jamais Joseph Kabila
n'a demandé à sa majorité. Et la preuve, c'est que ceux qui partent de la majorité, ce qu'on a chassé de la majorité, c'est quoi? Ils discutent qu'on n'a jamais discuté de ce problème-là. Ils pensent qu'on doit discuter. Comment on doit discuter d'un changement de la Constitution, quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, qui n'est pas constitutionnel? Vous voulez qu'on discute de cela? Pourquoi?
Merci, merci, Innocent Kabukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Vous venez suivre Joachim Diana Gikoupa, qui estime que le chef de l'État n'a fait que répéter ce qu'il a toujours dit. Il n'a jamais dit à sa famille politique de réviser la Constitution.
Oui, là, le président de la République lui-même l'a dit en s'adressant à sa base, à sa majorité, vous voulez dire, hein, à sa famille politique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Diana lui-même entretient quand même un flou en donnant l'exemple de si c'était un opposant qui aurait écrit un livre du genre, mais je ne crois pas qu'un opposant écrirait ça. Ça ne marcherait pas. Pourquoi un opposant écrirait, prendrait sa liberté pour écrire les livres qui auraient le même titre que celui de Beauchamp?
Mais comment vous avez analysé ces faits?
Ça sont des faits, et vous l'avez bien dit. Le problème, c'est que, alors que l'actualité bouillonnait autour de cette question, le président de la République est resté dans son silence, et donc, il était normal que des gens pensent, parce qu'il est le chef de cette famille-là, que le chef de l'État ne se soit pas prononcé sur cette question ouvertement, et donc, c'était facile pour que les gens versent dans ce procès d'intention, comme il a dit lui-même. Et donc, il fallait attendre qu'il essaie de dire quelque chose. Mais même là alors, lorsque le président en parle, il dit, il n'a jamais demandé à la majorité de le faire, mais là, il s'adresse à la majorité. Le décor idéal pour nous, c'est que, au moment, parce que nous sommes à une année pratiquement, de prochaines élections, notamment la présidentielle, qui intéresse un grand monde. Le président de la République pourrait, parce que la Constitution lui donne quand même autant de possibilités, pourrait s'adresser directement à la nation pour apaiser. Mais lorsqu'il s'entretient, il parle avec sa famille politique. On sait que quand on parle d'une famille politique ou un parti politique, c'est une affaire privée. Et donc ça n'engage pas forcément un État. Le président de la République, c'est une institution. Et donc le décor idéal pour moi, je pense que le président s'adressait directement à la population. On aurait donné quand même assez de crédit par rapport à ce qu'il a dit. C'est comme ça que je comprends le peu de pessimisme qu'il y a encore dans le chef de certains opposants, même si il y en a qui exagèrent dans leur raisonnement. Mais le plus important, c'est que le président de la République devrait aller davantage dans sa logique beaucoup plus loin et non pas parler, lorsqu'il dit quelque part dans ce même propos que je vais aller aux élections avec la majorité. Bon, là il y a quand même un petit flou, on se dit, mais est-ce que quand il dit je vais aller, bon, tout ça ce sont des questionnements. Je vais aller, ça veut dire lui il irait comme candidat ou lui il irait seulement comme accompagnateur. On ne sait pas, est-ce qu'elle va-t-il choisir un dauphin sur lequel, mais quand on regarde la majorité, on ne voit pas tout de suite la personne qui émergerait, parce que dans le cas, permettez mon frère, dans le cas par exemple de la primature, c'était plus facile. Le président de la République est lui-même le visionnaire d'un projet, il se choisit un premier ministre et celui-là va faire le travail. Et donc, on ne saura pas tenir trop, rester dans cette voie-là, mais pour un dauphin, alors il faut trouver quelqu'un qui ne soit pas à mesure de le trahir. Hein, on pourrait prendre l'exemple de la Russie avec Poutine et Medvedev. Ça marche, pourquoi? Parce qu'il y a quand même là un bilan, mais dans le cas des Africains, ce n'est toujours pas aisé. Et donc là, visiblement, le chef de l'État ne nous a pas garanti. Et donc, on espère que, parce que le président de la République a toujours cette opportunité, s'il ne peut pas le faire maintenant, donc naturellement, lors de son discours sur l'état de la nation, devant les congrès, peut-être que le président de la République s'adressera cette fois-là à la nation et pourra nous dire si, effectivement, il n'y a rien de tel, au lieu que la population reste avec tout un tas de questionnements.
Georges Katongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu Maniema, émettant des Kindu, Innocent Kabukala a commencé à évoquer cet aspect des choses. Le chef de l'État s'est dit prêt pour les élections. Nous avons reçu dans l'émission Dialogue entre Congolais de lundi dernier un cadre de la majorité présidentielle qui a précisé que Kabila ne le dit pas en tant que candidat, mais plutôt en tant qu'autorité morale qui devra accompagner les candidats de la majorité présidentielle aux élections de 2016. Comment vous réagissez à cette mise au point de ces cadres de la majorité présidentielle?
Voilà. Le problème est un reste entier dans la mesure où, d'abord, le chef de l'État s'est adressé à sa propre majorité. C'est un chef de famille qui s'adressait à ses lieutenants. C'est en cette qualité. Le chef de l'État n'a jamais communiqué avec la population congolaise à travers son champ ou bien sa ferme propre de Kingakati. C'est à travers le congrès ou bien le message de paix. Donc, ce qui a été dit à Kingakati, à mon humble avis, je pense que c'est juste un commandant qui a bâti les rappels des troupes. C'était juste un discours de réconfort et de moralisation de ces hommes. C'est comme ça qu'il faut considérer cela. Et aussi, on ferait mieux d'éviter ce que Mobutu, dans une des confidences de Mobutu à Yadema, Mobutu disait ceci, et j'essaie un peu d'interpréter, que ça m'étonne beaucoup chez moi au Zaïre, lorsque je parle même d'une chose banale, les gens s'y mettent à y interpréter beaucoup, et même des professeurs d'université trouvent des théories pour expliciter ce que je disais d'une façon banale. Alors, le chef s'est adressé à sa majorité, attendons le chef de l'État, dans la première quinzaine du mois de décembre ou bien le 31 décembre de cette année, le chef de l'État va s'adresser à la nation congolaise et on verra ce qu'il dira. C'est juste une conversation de consommation interne appelée le tsunami qui vient de secouer la famille. Il fallait quand même que le chef de famille batte les rappels des troupes, moralise ces hommes.
Georges Katongo, au sujet des élections, hein, lorsque le chef de l'État dit qu'il est prêt pour les élections, il y a même Innocent Kabukala qui s'est posé la question de savoir si c'est lui-même qui est prêt, lui en tant que candidat, pour ces élections de 2016, ou c'est plutôt un autre candidat que le chef de l'État va accompagner, un candidat de la majorité présidentielle. J'ai rappelé ici qu'il y a un cadre de la majorité présidentielle qui a fait une mise au point par rapport à cela. Il a dit que si le chef de l'État l'a dit, il ne l'a pas dit en tant que candidat, mais plutôt en tant qu'autorité morale de la majorité qui va accompagner les candidats qui sera choisi par la majorité présidentielle pour les élections de 2016. Comment vous analysez cette mise au point?
Bon, premièrement, il faut savoir que le chef de l'État, au respect de la constitution actuellement en vigueur, c'est un cheval non partant, il ne sera pas candidat à sa propre succession parce qu'il est en train d'achever son deuxième et dernier mandat. Mais le chef de l'État peut aller aux élections étant que le chef de la majorité au pouvoir. Et dans ce cas, vous savez que ce sont les partis politiques ou les regroupements politiques qui sont candidats aux élections. Dans cette optique, le chef de l'État ira aux élections, mais pas pour se succéder au sommet ou bien à la magistrature suprême. Nous pensons, sauf preuve du contraire, mais nous pensons que le chef de l'État est un cheval non partant. Mais comme chef de cette majorité, comme chef de l'autorité morale de la majorité au pouvoir, il ira parce que la majorité sera candidate. Merci. Aux élections à venir.
Joachim Diana-Gikoupa, Joseph Kabila a invité la majorité à préparer les dialogues et à se préparer aussi à affronter les prochaines élections. Préparer les dialogues et en même temps préparer les élections, comment vous comprenez cela? Est-ce qu'on pourra les faire au même moment ou il faudrait privilégier l'un au détriment de l'autre?
Oui, mais écoutez, d'abord, je suis surpris par le raisonnement des Congolais. J'ai appris ici, lorsqu'on dit que Kabila allait changer la constitution, ça a créé tout un problème. Il y a des débats, la communauté internationale, les envoyés spéciaux. Il avait parlé officiellement à quelle occasion? Alors, maintenant, lorsqu'il parle à sa famille pour dire que je n'ai jamais demandé, dit non, là, il n'a pas parlé devant tout le monde, ça ne sera valable que lorsqu'il parlera devant tout le monde. Mais lorsque, pour réviser, il a parlé devant quel tribunal officiel? Vous voyez le raisonnement? Vous voyez comment les Congolais sont embrigadés? C'est ça que j'appelle des sentiments.
Bon, il y a des gens qui estiment que c'est des questions importantes et qui ne peuvent être contenues que dans un message à la nation, une adresse à la nation.
C'est pourquoi on devait, par exemple, même pour réviser la Constitution, il fallait que les gens attendent que cette question est importante, que le chef de l'État annonce la révision de la Constitution dans une occasion officielle, solennelle. Il ne l'a pas fait, mais on a fait tous les débats possibles ici, il va changer, mais nous ne sommes pas sûrs et tout ça. Mais vous n'êtes pas sûr sur base de quel discours il avait dit, quel jour ou où?
Voilà, il demande à sa majorité de préparer les dialogues et en même temps de se préparer aux prochaines élections. Ça va se passer comment?
Tout à fait. Le dialogue doit présider les élections. Et je crois que c'est le souhait de tout le monde. Il y a d'énormes problèmes qui sont créés notamment par la CENI, par la classe politique. Donc, des questions qui amènent qu'aujourd'hui, déjà, le calendrier devient intenable. La classe politique exige un calendrier global. On nous donne un calendrier global, non, il est serré. Mais comment le calendrier ne peut pas être serré, puisque vous voulez qu'il soit dans les délais constitutionnels? Si on le dessert, on glisse, on sort de là.
Il faut un dialogue avant l'élection.
Il faut un dialogue pour que les gens se mettent d'accord sur certains termes. Si on veut, par exemple, les gens ne veulent pas des élections locales parce qu'ils ont des partis qui ne sont plantés à la base. Mais si ces gens-là peuvent convaincre dans les dialogues, on met les élections locales, parce qu'avant, ils avaient demandé global, eux-mêmes. Alors, s'ils veulent qu'ils ne veulent plus un calendrier global, un calendrier partiel, donc ça, les dialogues vont résoudre tous ces problèmes.
Et vous pensez que si on organisait les dialogues maintenant, cela ne va pas impacter la tenue des élections dans les délais constitutionnels?
Non, mais ça va impacter puisque les gens... Si on organise les élections aujourd'hui, il y a des gens qui vont trouver prétexte à ne pas y aller. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que le dialogue, il peut te prendre 2-3 jours. 2-3 jours, ce n'est pas un dialogue qui prendrait tout un mois. Mais on doit aller aux élections. Et pour aller aux élections, il faut apaiser les esprits. Et c'est ça le souhait du chef d'État. Lorsqu'il dit que ces élections, il va le gagner avec sa famille politique, j'aimerais mieux qu'on le demande avec des faits sur le terrain. Il semble qu'à la majorité, il n'y a aucun candidat qui émerge. Je n'en vois pas non plus à l'opposition, qui n'a jamais été au fourneau, qui a eu ne fût-ce que 40%.
Inosa Kabukala, le chef de l'État dit ce que Diane a commencé à évoquer là. Il dit que les élections soient organisées aujourd'hui ou demain, et il ne voit pas la force politique qui pourra gagner ces élections à part sa majorité présidentielle.
Bien sûr, ça c'est de bonne guerre, parce que aussi on est comme adversaire. Le discours passe, effectivement. Et encore qu'on s'adresse à qui ? À sa majorité, c'est clair. Et donc, ça ne me surprend pas. Mais le plus important, c'est que le président de la République... s'il s'inscrit dans la dynamique que nous devons organiser les élections et que ces élections doivent se passer dans les normes requises. Les normes, c'est quoi? C'est d'abord le fait que la Constitution a limité les mandats. Mais si on accepte ça, c'est que c'est bon. Mais maintenant, la question de savoir, on ne voit pas qui est en train d'émerger au niveau de l'opposition. Bon, là, il n'y a que Diane. Bon, j'espère que comme il met pas encore des lunettes, peut-être qu'il ne sait pas, il sait pas voir. Mais à la majorité, on ne voit pas parce que tout le problème, c'est quoi? La personne pourrait bien sûr bien exister, mais le tout est fonction du bilan. Quel est le bilan de la majorité pour pouvoir espérer gagner ces élections-là dans les 2 prochains jours? C'est aussi une autre question. Bon, je ne peux pas être prophète de malheur. Je ne vais pas non plus discréditer la majorité. Le tout dépendra de l'argumentaire, et encore que à la base, c'est la population elle-même qui sait choisir. Les opposants, il y en a, il y a des gens qui ont déjà révélé leur intention pour être des candidats pour la République, on en voit partout, on en a déjà entendu, et la population sait aussi quels sont ces gens qui émergent. Mais alors, à la question, mais est-ce que pour tout cela, faudra-t-il un dialogue? Mais moi, je souscris effectivement à l'idée d'un dialogue. Pourquoi? Simplement, parce qu'il ne faut pas être de mauvaise foi pour comprendre que pour faire ces élections, il y a bien sûr des préalables qu'il faudrait nécessairement toucher pour pouvoir espérer avoir des bonnes élections. C'est notamment le calendrier, même si on dit que le calendrier a été demandé, on le voulait global. Mais d'accord, on a voulu ce calendrier global dans l'idée qu'il y a un gouvernement qui est responsable, qui sait que dès que le mandat commence, il y a des choses qu'il faut obtenir. C'est par exemple mettre l'argent de côté pour pouvoir organiser ces élections-là parce qu'on sait que ça va arriver. Mais quand cette majorité n'a pas fait des économies pour ces élections-là et qu'on va se retrouver qu'à la fin, il reste très peu de temps. On n'a pas de l'argent nécessaire pour ça. On n'a pas non plus le temps pour le faire. Merci. Mais pourquoi n'est pas demandé qu'il y ait par exemple des scrutins qu'on peut mettre de côté pour se focaliser sur les élections qui sont essentielles, notamment la présidentielle et législative, et continuer.
Geoff Katongo, quelle devrait être l'attitude de l'opposition après cette déclaration du chef de l'État? Il ne serait pas prudent que cette opposition se prépare à toute éventualité pour qu'elle ne soit pas surprise en 2016?
Oui, nous supposons que l'opposition est aux aguets depuis là. Parce que vous savez que l'opposition, jusqu'à présent, au moins, à l'unanimité, clame pour des élections dans les délais constitutionnels, à la seule exception que les locales soient postposées en 2017. Mais les législatives nationales, provinciales et les présidentielles, l'opposition en réclame à corps et à cri. Et devant cette situation, l'opposition, à mon avis, n'est pas distraite, elle se prépare. Mais les dialogues comme préalable aux élections, moi je pense que c'est une façon de dédouaner la CENI qui s'est dans une vaste mesure disqualifiée. Et il faudra ces dialogues, mais l'opposition sera de ce côté, ne sera pas, mais au moins,
merci.
Je me dis que l'opposition est en ordre de bataille.
Merci. Nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Clôture la semaine dernière à Genève de la réunion ministérielle sur la stratégie des solutions globales pour les réfugiés rwandais. Parmi les recommandations, les pays participants, dont la RDC, ont annoncé que les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. Les ministres des pays d'accueil des réfugiés rwandais s'engagent à trouver une solution pour ceux qui ont fui leur pays avant le 31 décembre 1998. Engagement pris lors d'une réunion ministérielle tenue vendredi dernier à Genève avec le HCR, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la RDC, le Kenya, le Malawi, l'Ouganda, le Mozambique, le Congo-Brazzaville, l'Afrique du Sud, la Zambie ainsi que le Zimbabwe. Les pays participants ont annoncé que les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. En cas de refus des réfugiés d'être rapatriés, il a été recommandé aux États concernés de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'exploration de l'acquisition de la citoyenneté. Les conclusions de cette rencontre avec Jacques-Yves Molima.
Les participants ont apprécié qu'à la lumière de la recommandation du HCR aux États de la cessation pour ces groupes de réfugiés, le HCR ne sera plus en mesure de soutenir opérationnellement cette population après décembre 2017, à l'exception de la finalisation des activités convenues conjointement. Ainsi, sur le plan des rapatriements volontaires, les participants ont convenu que le retour organisé prendra fin au 31 décembre 2016. Et avant cette date, les participants vont intensifier les dialogues avec les réfugiés rwandais sur les possibilités de bénéficier du rapatriement volontaire organisé. Sur l'intégration locale, les participants ont reconnu la nécessité d'empêcher que les anciens réfugiés se retrouvent sans statut juridique ou risquent de devenir des apatrides, d'où la nécessité de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'exploration de l'acquisition de la citoyenneté pour éviter une telle situation. En étroite collaboration et avec le soutien du HCR, les participants, tout en appelant la communauté internationale à soutenir le processus de solution, ils vont s'investir pour élaborer les plans de travail nécessaires afin de finaliser la stratégie de solution globale dès que possible et au plus tard le 31 décembre 2017.
Merci Jacques-Yves Molima, Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Les pays participants, dont la RDC, annoncent que les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés rwandais prendront fin le 31 décembre 2016. Au vu des réalités sur le terrain, vous pensez que ce délai est réaliste?
Bon, vous savez, le délai peut ne pas être réaliste, mais c'est une situation qui dure. Ça dure depuis des années. Et cette réunion nous fait comprendre maintenant tout ce qu'il y avait comme stratégie derrière, tout ce qu'il y avait comme manœuvre autour de ces FDLR. Jamais on n'a vu la communauté internationale.
Il n'y a pas que des FDLR, on parle des réfugiés rwandais.
Oui, moi je parle des réfugiés rwandais et de principal, parce que ceux qui posent problème, ce sont des FDLR. Alors, on n'a jamais fait pression sur le régime rwandais pour qu'il organise ne fût-ce qu'un dialogue pour que les gens... vous voyez, la RDC, pour que ces anciens rebelles qui étaient dans d'autres pays rentrent, il y a eu une rencontre. Au cours de cette rencontre, on a rassuré les uns et les autres et ils sont rentrés dans la capitale. Il y en a qui sont allés sans problème. Mais ici, pour le Rwandais, la communauté internationale n'a jamais fait un effort. Et tout simplement, nous savions qu'en dernière minute, on dira non, puisqu'on ne doit pas avoir des apatrides, et donc la République démocratique, ici, c'est le plus concerné, c'est la République démocratique du Congo qui a le plus grand nombre de réfugiés rwandais.
245 000 réfugiés rwandais.
Intégrer-le.
Évidemment, c'est un chiffre qui est... il y en a qui disent que c'est sous-estimé.
Intégrer-le, qu'il prenne la nationalité congolaise, on va se retrouver avec un autre problème de Moulengue. Ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Moulengue, où est né de Banyamoulengue, c'est devenu un problème pour les communautés locales. Et ça encore, ça va être un problème avec les communautés locales. On n'aura pas créé la paix au Congo.
Merci, Innocent Kaboukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Les États disent, en cas de refus des réfugiés d'être rapatriés, il est recommandé à ces différents États, dont les États concernés, de prendre toutes les mesures possibles, y compris l'exploration de l'acquisition de la citoyenneté.
C'est là que les bas blessent, la citoyenneté. Mais on sait que pour mériter, pour avoir une nationalité dans un pays, il y a une procédure à suivre. Alors, mais globalement, vous prenez tout le monde et vous leur accordez la nationalité. Mais je ne sais pas comment ça va se faire. Parce que d'abord, du point de vue de la logistique, ça va être un problème pour arriver à identifier déjà le nombre de ces réfugiés-là. On dit qu'il n'est pas connu de façon claire. Alors, mais c'est difficile de procéder de cette manière-là. Et surtout pour le cas de la République démocratique du Congo. Le confrère l'a dit ici. nous avons un sérieux problème au niveau des communautés dans cette partie de la République, la partie est de la République démocratique du Congo. Mais s'il faut procéder de cette manière-là, on va retrouver les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que nous avons et on n'a jamais résolu le problème. Mais je pense que cette question, à mon avis, doit avoir une solution politique. Et la solution politique signifie, au départ, imposer au pays d'origine le retour de ces gens-là. Ils ont un pays, on a identifié, on connaît leur origine. Mais pourquoi, par la simple volonté d'un seul homme, on dit ces gens-là ne peuvent pas rentrer, ne peuvent pas venir parce qu'ils menaceraient la quiétude de l'autre population qui est là-bas. Mais nous, ici, nous sommes à combien d'ethnies? Et nous supportons mutuellement. Personne n'a jamais demandé à quelqu'un de cesser d'être congolais parce que simplement il y a ces petits clivages qui existent par moment. On a connu ce qui s'est passé entre le Katanga et les populations Luba, mais ce n'est pas pour autant que le Congo a cessé d'être Congo et que les gens ne se supportent pas. Aujourd'hui, on revoit encore ces mêmes mouvements de fréquentation. Donc, je crois que cette question, une des manières de résoudre cette question-là, ce n'est pas cette question de citoyenneté, de la manière dont on voudrait qu'on le fasse, mais je pense qu'il faut effectivement, cette fois-ci, imposer à monsieur le président de la République du Rwanda d'accepter ses frères et de trouver des solutions là-bas. Il est possible, mais sinon, et c'est là que moi je reproche quelque part notre gouvernement, parce que dans la plupart des cas, notre gouvernement, il peut faire dans cette question-là subir plutôt que prendre de mesures qui s'imposent. Il faut hausser le ton, il faut se montrer qu'on est un gouvernement, on a besoin dans ce pays aussi, de s'occuper d'autres choses. Vous savez que cette question-là nous a fait rater beaucoup de choses. Merci, parce que simplement, il fallait s'y pencher.
Ok. Georges Katongo, journaliste à la radio Akiza Binadamu Maniema et Métan de Kindu. Selon le gouverneur du Nord Kivu qui a pris part à cette réunion de Genève, il ne s'agit pas d'octroyer la nationalité congolaise aux réfugiés rwandais vivant en RDC, mais plutôt de leur accorder une citoyenneté rwandaise. Donc des citoyens rwandais vivant sur le sol congolais.
Voilà, là j'essaie un peu de lucider la notion de la citoyenneté et je prends les livres politiques par excellence du professeur Ngoma Binda Pambu et Participation politique. Il définit la citoyenneté comme l'ensemble des pratiques pour vivre en harmonie avec la communauté nationale et internationale. C'est-à-dire, en d'autres termes, intégrer les réfugiés rwandais au sein de la population congolaise. Dans un de ces livres, M. Honoré Mbanda Zamboko Atumba, le livre est intitulé « Crime international organisé en Afrique centrale, secret d'État ». La théorie du Rwanda consiste à infiltrer ses citoyens dans l'est de la République démocratique du Congo, jusqu'à tel point que les Rwandais, ou bien les citoyens d'origine rwandaise, seront majoritaire à l'est du pays, un jour il y aura du trouble pour qu'il y ait un référendum d'autodétermination et qu'on trouve un autre pays pour les rwandophones. Vous voyez, ça c'est André Nguandazamo qui écrit ça dans un livre publié quand même. Donc, cela vraiment n'est pas ni un bon diagnostic et encore moins un bon remède.
Merci, Georges.
Les citoyens rwandais doivent retourner chez eux, ils ont de la place, ils doivent être intégrés chez eux et non pas au Congo. Accepter cela, c'est ce que Monseigneur l'évêque de Beni Butembo avait qualifié d'impuissance nationale. Donc ce n'est pas quelque chose à accepter. Les Rwandais ont leur pays. Pour la plupart, ils ont des armes, ils n'ont pas même des cartes d'électeur. Où est-ce qu'on va leur accorder cette citoyenneté?
Merci Diana, nous sommes à la fin de cette émission, vous allez conclure. Et que faut-il pour solutionner de façon durable cette question des réfugiés rwandais en RDC? Vous avez suivi Innocent Kabukala qui a estimé que la solution elle est politique. Il faut imposer au pays d'origine de ces réfugiés d'accepter le retour de ces réfugiés dans leur pays, le Rwanda.
C'est la seule solution. Ce sont des citoyens rwandais qui doivent rentrer au Rwanda. Et la RDC, celui qui a déjà été mordu par le serpent, a tout le droit de se méfier même du lézard, encore que le Rwanda n'est pas un lézard. Donc c'est pour dire que ces gens doivent rentrer au Rwanda dans leur pays. Pas question de les intégrer au Congo, parce que s'ils ne veulent pas rester au Rwanda, ils sont libres d'aller vivre dans d'autres pays, comme commerçants, comme quoi, on ne leur interdirait pas. Mais pourquoi ils veulent rester au Congo seulement comme citoyens congolais?
Merci Innocent Kabukala. à votre conclusion.
Et voilà, je reviens sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, qu'on ne puisse pas jouer avec les mots, c'est vrai, toutes les théories autour de la citoyenneté, tout le monde a compris cela. Mais le plus important, c'est que le Rwanda à des citoyens qu'on appelle des Rwandais. Et à partir du moment que ces citoyens vivent ailleurs, et je crois que tout pays a besoin de garantir la sécurité à ces populations. C'est pourquoi moi j'exige que ces gens retournent chez eux. Il y a de la place pour eux et là-bas, et donc non pas en République démocratique du Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à André Mongo qui était à la technique, à Alain Hirung à la réalisation sous la supervision des Pélé Kitera Mondo, à la présentation Guy Matré. Merci et bon week-end sur Radio Capital.